おかしいおかしい。ふうふうふう。
Merci d'être au rendez-vous pour faire avec nous le tour de quelques grands faits d'actualité de cette semaine avec nos confrères journalistes des médias autres que Radio Okapi, comme nous le faisons chaque semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. La tribune de la presse ce vendredi 25 juillet 2008 abordera trois thèmes. Le détournement de plus d'1,3 milliard de dollars américains dans les trois régies financières de la RDC et dans six autres entreprises publiques. Déclaration faite mardi dernier par le ministre auprès du Premier ministre, Godefroy Mayobo, au cours d'un point de presse. Nous parlerons aussi de la comparution prochaine devant les tribunaux militaires du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, dans le procès sur l'assassinat de Daniel Botessi, vice-président de l'Assemblée provinciale de la capitale Kinshasa. Notre dernier thème sera la saisie cette semaine au Portugal de biens du sénateur Jean-Pierre Bemba à la demande de la Cour pénale internationale. Pour en parler, nous avons, comme la semaine écoulée, invité une consoeur et deux confrères, Claudine Bombo, journaliste au sein du quotidien L'Observateur, paraissant à Kinshasa, Thierry Lebika, rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal Kin, émettant à partir de Kinshasa, et au téléphone depuis la ville de Chikapa au Kasaï occidental, André Romain Kambala Bilolo, journaliste de Kasaï Horizon Radio-Télévision KHRT, station de Chikapa. Mais avant de commencer cette émission, Radio Okapi est en deuil. Nous venons de perdre ce vendredi à 3h du matin notre consoeur Nathalie Mouteba. C'était l'une des journalistes les plus anciennes de Radio Okapi. Elle a travaillé comme journaliste reporter et parfois comme présentatrice du magazine de la vie au quotidien Okapi Action. Que son âme repose en paix. Revenons à l'émission de ce soir, comme nous en avons pris l'habitude depuis quelques semaines, pour vous donner une idée sur la façon dont la presse de Kinshasa a traité les thèmes retenus ce soir. Notre confrère Guy Maté a lu pour vous les journaux kinois, suivant donc la revue de la presse qui nous en fait.
Les journaux paris cette semaine à Kinshasa se sont penchés sur l'annonce par le ministre, le Premier ministre, du détournement de plus d'1,3 milliard de dollars américains. La comparution lundi prochain d'André Kimbuta, gouverneur de la ville province de Kinshasa, dans les procès sur l'assassinat de Daniel Botessi, ainsi que la saisie au Portugal des biens du sénateur Jean-Pierre Bemba à la demande de la Cour pénale internationale. À propos du vol de plus de 1,3 milliard de dollars dans les entreprises publiques, Kabila et Mabunda ont à certifier, rapporte la tempête des tropiques du jeudi 24 juillet 2008. Pour ces quotidiens, ce qui devait arriver est arrivé. La longue période d'intérim passée à la tête des entreprises du portefeuille de l'État a été une occasion gratuitement offerte à leurs gestionnaires de se remplir les poches au détriment du pays. Le président de la République, le Premier ministre et la ministre du portefeuille, poursuit le même journal, sont appelés à expliquer à l'opinion la situation de ces passages à vide porteurs des conséquences néfastes sur les trésors publics. Janvier 2006, juillet 2007, plus d'1,3 milliard de dollars volés dans les entreprises publiques, titre le palmarès qui renchérit, je cite, alors que le gouvernement peine à constituer son budget, un tel montant, soit près de la moitié de l'exercice budgétaire de cette année, a de quoi révolter les bonnes consciences. Ce quotidien rappelle que le poteau rose a été découvert par la commission interministérielle d'audit et de bonne gouvernance. Entreprise et régie financière d'Izenga accuse 1,3 milliard de dollars détournés, titre l'avenir, qui renseigne sur le nombre de personnes impliquées, parle notamment des 17 personnes physiques, 10 personnes morales traduites en justice pour malversation financière. Mayobo n'a pas tout dit, annonce de son côté l'Observateur du jeudi 24 juillet 2008. En effet, poursuit ses quotidiens, le ministre n'a pas abordé le système sophistiqué des commissions qui, jour et nuit, enfle et fait des ravages à tout le niveau, en écornant toute initiative de développement lorsqu'il ne l'annihile pas purement et simplement. Meurtre d'un élu à Kinshasa. Le tribunal exige la comparution de Kimbuta, titre la tempête des tropiques du jeudi 24 juillet 2008, qui rappelle que la décision de faire comparaître le lundi 28 juillet M. Kimbuta a été annoncée par le président du tribunal militaire de Kinshasa Lalima, le capitaine Patrice Sangwa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a depuis porté plainte contre son accusateur. Et sa formation politique, le PPRD, a réaffirmé sa confiance en la justice du pays, conclut la tempête des tropiques. Pour finir, le dirigeant Pierre Bemba, saisi au Portugal, titre l'avenir du mercredi 23 juillet 2008, qui cite l'agence France Presse et l'hebdomadaire portugais Sol. Selon ces deux organes de presse, les autorités portugaises ont mené cette opération le mois dernier à la demande de la CPI. Le palmarès de mercredi dernier précise qu'il s'agit d'un avion Boeing, d'un yacht, de deux voitures haut de gamme, d'une villa dans le sud du Portugal, estimée à 2,5 millions d'euros, conclut ce quotidien.
Merci beaucoup Guy Maté. Entrons directement dans notre premier thème, qui est l'annonce mardi dernier par Godefroy Mayobo, ministre après le Premier ministre, d'un détournement de plus d'un milliard 300 millions de dollars américains dans trois régies financières. Il s'agit notamment de la Direction Générale des Impôts, DGI, de la Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales, DGRAD, et de l'Office des Douanes et Assises, OFIDA. Mais ce détournement concerne aussi un premier échantillon de six entreprises publiques, telles que l'ONATRA, l'OCC, la Régie des Eaux, la CNEL, la SONAS et la RVA. Notre confrère Nathan Coco avait assisté mardi dernier à Kinshasa au point de presse tenu par le ministre près le Premier ministre Godefroy Mayobo, et il nous en fait ici le point.
C'est le bilan d'une année de travail effectué par la CABG, Commission d'audit et de bonne gouvernance, mise en place avec CRIT, Commission de récupération des immeubles et terrains de l'État. Objectif, instaurer la bonne gouvernance au quotidien. L'audit mené par la CABG, pour une période non encore indiquée, a porté sur trois régies financières, DGI, DGRAD et OFIDA, et sur six entreprises étatiques dont l'ONATRA, l'OCC, la Régie des Eaux, la SNEL, la SONAS et la RVA. Selon Godefroy Mayobo, des mesures correctives sont en cours contre les responsables dont les identités n'ont pas été révélées.
L'établissement des présomptions de culpabilité, tant administrative que pénale, de la part de certains cadres de ces structures et de certaines personnes morales. Ainsi, à ce jour, la ministre du portefeuille et le ministre des Finances ont fait ouvrir des actions disciplinaires ou formuler des demandes de remboursement des sommes indûment perçues. Ces mesures concernent 53 personnes. De son côté, le ministre de la Justice a transmis au parquet général pour instruction et inculpation, le cas échéant, les dossiers de 17 personnes physiques et 10 personnes morales.
Quant à la commission de récupération des immeubles et terrains de l'État, Godefroy Mayobo a évoqué 153 dossiers de terrains et immeubles à Kinshasa, 48 dossiers à Bukavu pour les immeubles appartenant à l'État et 159 dossiers pour les mêmes immeubles, mais cette fois-ci à Lubumbashi.
Pour sa part, M. Rachidi Akida, président de la Ligue contre la corruption et la fraude, l'ICOF en sigle, pense qu'il ne faut pas s'arrêter au niveau de la dénonciation, mais il faudrait que tous les auteurs soient réellement punis, conformément aux lois du pays, mais aussi qu'ils restituent les biens volés. Il a été joint au téléphone par notre confrère Blaise Shindani Kambala.
Que le gouvernement puisse continuer d'abord à mener des investigations jusqu'à arriver à déterminer les coupables, les châtier, les transférer devant les juridictions compétentes et aussi que ces derniers puissent restituer, n'est-ce pas, les montants perdus. Mais ce qui est malheureux pour nous, c'est qu'on puisse dénoncer, n'est-ce pas, ce détournement et au bout de compte, on n'arrive pas à mettre la main sur les coupables et surtout à les transférer devant la justice. Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait dénoncé certains ministres dans le gouvernement passé, on les avait même révoqués, mais ces ministres n'ont jamais été inquiétés et en plus, ils n'ont jamais été référés en justice et ils n'ont jamais restitué les montants dont ils étaient reprochés.
Bonsoir Claudine Bombo.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au sein du quotidien L'Observatoire, paraissant à Kinshasa. Votre réaction par rapport à ce détournement, il faut le dire paramineux, qui ne concerne pour l'instant que trois régies financières et un premier échantillon des six entreprises publiques. Mais qu'en sera-t-il alors que lorsque toutes les entreprises publiques seront auditées ou contrôlées?
Vraiment, je suis très étonnée, mais laissez-moi d'abord présenter mes condoléances à la famille de Nathalie Moutéba que nous venons de perdre. Je suis vraiment très étonnée. Je me dis, la semaine passée, on a discuté ici pour dire que le gouvernement n'avait pas assez de moyens pour répondre aux besoins de sa population. Et maintenant, quand nous découvrons que quand les gens cherchent l'argent, quand on parle de la justice distributive, il y a des gens qui sont en train de s'enrichir inutilement. Et je pense que le moment est arrivé, comme le monsieur qui venait de parler tout à l'heure, où on ne doit pas seulement s'arrêter à la dénonciation. Oui, monsieur Rachidi, on ne doit pas s'arrêter à la dénonciation, mais nous devons, au fond, qu'il y ait des procès publics pour que nous puissions voir ces gens-là. Je pense que le discours du président qui disait que les portes des prisons sont grandement ouvertes pour les malfaiteurs, pour les criminels, je pense qu'il n'y aura plus, d'ailleurs il n'y a même pas assez d'espace dans les centres pénitentiaires, je pense qu'on va construire même d'autres prisons pour ces gens-là.
Merci beaucoup Claudine Bombo. Thierry Lebika, bonsoir.
Bonsoir Claude.
Vous êtes Thierry Lebika, bonsoir.
Bonsoir Claude.
Vous êtes rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal Kin, émettant à partir de Kinshasa. Je vous pose aussi la même question. Votre réaction par rapport à ce détournement?
Avant toute chose, comme Claudine, je voudrais saluer la mémoire de Nathalie Moutéba qui est décédée depuis ce matin.
Je vous en prie.
Que son âme repose en paix. La première réaction, c'est totalement pareil que ma consoeur Claudine Bombo. Pourquoi? Parce que dans ce pays, il y a toujours beaucoup de discussions autour de ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. On nous apprend que nous devons partir au FMI, partir à la Banque mondiale, partir n'importe où pour aller nous endetter, voir des Chinois. Et pourtant, beaucoup nous le disent aussi que l'argent se trouve ici. Quand vous voyez un petit minable, entre guillemets, quelqu'un qui n'a rien, Libanais, Indo-Pakistanais, qui arrive ici, 6 mois après...
Mais c'est le Congolais, hein.
Oui, non, bon, je commence par eux, j'arriverai au Congolais. 6 mois après, Mercedes, Villa, ma campagne, on se dit, mais c'est un voleur. Et pourtant, tous ne sont pas voleurs. C'est vrai qu'il y en a qui sont dans la Maui, tout comme des Congolais, mais l'argent se trouve dans ce pays. Tout simplement, il faut une vraie justice définitive et par la suite aussi un peu de sérieux. En termes politiques, cette histoire me fait rire. Pourquoi? Parce que il y a moins d'un mois, nous avons vu une campagne dans les télévisions contre Karel de Gucht qui ne peut pas me dire qu'il y a corruption. J'ai même vu des gens qui étaient prêts à jurer devant la Bible que dans ce pays, il n'y a pas de corruption, personne ne volait, tout allait bien. Aujourd'hui, on parle de 1,3 milliard. Ça me rassure que dans ce pays, il y a beaucoup, beaucoup de voleurs et qu'il ne faut pas seulement dénoncer. C'est là que je dis que le ministre Mahébou n'est pas allé jusqu'au fond. Il peut même citer les noms. Pourquoi on ne cite pas? Quand quelqu'un vole, de quoi est-ce qu'on veut encore épargner ces 50 personnes physiques ou morales? On les épargne de quoi? À partir du moment où il dit qu'il y a des présomptions de vol qui sont totalement établies, il faut commencer par les dénoncer, peut-être plus tard les arrêter. Il a même dit qu'on demandera à ces messieurs-là de remettre ceux qui sont volés. Ça se passe où? S'ils remettent, est-ce qu'on va encore les arrêter? C'est quoi l'exemple qu'on va donner? Il suffit pas seulement que de remettre, il faut aussi qu'il y ait des mesures disciplinaires et des procès contre ces gens. À ce moment-là, moi, je serais rassuré que les portes des prisons sont réellement ouvertes. Jusque même quand Maïbo fait ce qu'il a fait, les portes de prison ne sont pas toujours ouvertes.
Merci beaucoup Thierry. Je vous pose aussi la même question. D'abord, bonsoir André Romain Kambala-Bilodo.
Oui, bonsoir Claude.
Vous êtes journaliste au Kassai Horizon, radio-télévision Kacharté, station de Chikapa, et vous intervenez à partir de cette ville. Votre réaction, s'il vous plaît.
Ok, d'abord, mes condoléances à la famille biologique de Nathalie et aussi à la radio Okapi.
Merci.
Ma réaction ne sera pas différente de celle des confrères. Du moins, j'ajouterais une note particulière, c'est que l'état d'impunité qui s'est installé dans ce pays a rendu les personnes qui tuent. À tel point que quand on crie haut et fort qu'on est en train de chercher l'argent gauche-droite chez les partenaires pour résoudre les problèmes qui se posent dans le pays, il y a deux gens qui prouvent à suffisant qu'il y a l'argent dans ce pays, mais qui passent par des chaînes qui ne sont pas contrôlées, mais puis qui posent des actes. Je crois, comme l'a dit Thierry, les prisons sont ouvertes. Nous ne devons pas nous frotter les mains à dire non, écoutez, ils ont détourné, les gens vont retourner l'argent. Bon, c'est vrai qu'ils vont reverser cet argent. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? C'est là où je soulève le cas d'impunité. Parce que quand il va reverser l'argent, c'est-à-dire il a reversé, il va rester libre. Non, ça ne se fait pas de cette façon-là. Il a détourné l'argent au moment où la machine au sein du pays ne tournait pas, où d'autres services sont paralysés. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple ici chez nous à Chikapa. Les infirmiers sont en grève, ce sont des gens qu'on a registrés dans des hôpitaux parce qu'ils ne sont pas payés ou parce que l'argent a été détourné quelque part. Bon, si le pays se plaint de l'argent et qu'il y a des gens qui en ont détourné, moi je me dis, leur place c'est la prison, qu'on ne s'arrête pas seulement. Comme l'a dit aussi,
même s'ils remboursent cet argent,
ils doivent aller en prison. Il faut qu'il y ait une politique punitive. Il ne faut pas seulement qu'il rembourse. S'il rembourse, je veux dire, il a reconnu, il a fait le meilleur coup, pas il peut rester à son poste et continuer son travail. C'est pas de cette façon-là que les choses se font ailleurs. Moi, je me dis, leur place est à la prison quand même ils vont rembourser cet argent.
Merci beaucoup, Romain André Kambala. Bilolo, je reviens à vous, Thierry. Mais finalement, le ministre Mayobo n'a pas précisé si cet argent était détourné après une année, deux ans, mais finalement, ça nous laisse aussi quand même dans une sorte de flou.
Le flou, moi, je peux l'expliquer avec un regard politique. Hein. C'est dans quel contexte que ces rapports sortent. Je ne pense pas que la commission Maloé ait travaillé de janvier jusqu'à aujourd'hui. Il y a une année, 7 mois par là. Bon, j'en ai pas de preuves, hein, mais
ils ont travaillé pendant une année.
Une année, 7 mois par là. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, ça fait une année 7. Je peux me dire que ces rapports-là était comme une épée pour le Palou qui disait je peux sortir ça n'importe comment. Vous savez maintenant que le Palou sortit ses rapports. Si la plupart de ses mandataires sont proches du PPRD, peut-être qu'on va dire gardez-nous Mayobo, gardez-nous Gizenga, parce que si on veut le changer, ils ont un rapport contre nous.
Donc ça peut servir aujourd'hui de monnaie d'échange
par là, politiquement. Mais également, 1,3 milliard, moi je pense que c'est peut-être peu, parce que c'est seulement pour 2-3 régies financières, 6 entreprises. Et si on va à Chikapa, où se trouve mon ami André, et si on va au Katanga, si on va au Bas-Congo, on peut aller jusqu'à 3 milliards. Qu'est-ce que je vais encore dire? Je vais dire quoi? Au mois de septembre, moi, si je suis fonctionnaire, l'État n'aura plus de justification pour me dire enseignant, rentrez, allez donner cours à nos enfants, les pays est en crise. Ils ne les diront plus. Ils doivent dire aux enseignants, venez nous négocier, vous demandez 3, nous vous donnons 2. Parce que ce sera trop facile à chaque fois de dire aux enseignants, faites des sacrifices, les médecins, faites des sacrifices, tous les Congolais faisons des sacrifices, pendant que nous sentons que le trait de vie de ceux qui sont au gouvernement ne cesse de monter. On a parlé de cette gifle, bon, entre guillemets, c'était à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'on sait ce qui se passe autour de M. Mayobo, mais c'est un signe que nos dirigeants s'enrichissent.
Ça, ça m'arrache ce journal, là.
Oui, j'ai dit entre guillemets. Nos dirigeants s'enrichissent trop facilement. Il n'y a pas que les hommes politiques. Dans l'armée, vous voyez des militaires qui roule en hammer dans cette ville, en Mercedes, dernier cri, tout ça.
Mais on l'a vu aussi du temps de Mobutu. Hein.
Bon, Mobutu, c'est du passé, je parle d'aujourd'hui. Vous savez, je peux vous dire qu'en 73, j'étais pas là. J'aurais raison de le dire, non. Mais je suis présent en 2008 et je me rends compte que ceux qui sont au pouvoir, il y a 2 années passées, on connaissait ce qu'ils étaient. Et une année après, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Les enfants vont en Europe tous les jours et pourtant le salaire d'un ministre au Congo démocratique, c'est connu. À 5000 dollars par là, comment ils font pour avoir des vacances chaque année en Europe, des magasins, des parcelles tous les jours?
Merci. Claudine Bombo, à cette allure, la RDC ne risque-t-elle pas de monter la marche et se classer première de la classe parmi les pays les plus corrompus au monde?
Bon, je pense qu'il faut d'abord encourager les bonnes initiatives. Il faut d'abord encourager les bonnes initiatives. Nous félicitons quand même la commission qui a travaillé. C'est déjà un premier pas.
Mais ils doivent aller jusqu'au bout, hein, comme le disent beaucoup de Congolais.
Oui, ils doivent aller jusqu'au bout.
C'est pas la première fois.
Et c'est pas la première fois.
On a assisté à la commission Bakande déjà, qui a conduit à ce que certains ministres quittent le gouvernement, mais ils n'ont jamais été jugés. Il y a des gens qui avaient mis la main sur une partie de la facture payée par la Société nationale d'électricité de Brazzaville. Oui. On n'a jamais mis la main sur eux. Est-ce que c'est pas un slogan aussi?
Vraiment, c'est ça aussi notre crainte. Il y a eu crash dans ces pays. Il y a eu les Antonov, tout ça, nous les savons bien. Et il n'y a jamais eu de procès. Nous pensons que le premier pas que la commission vient de faire ne doit pas s'arrêter là. Nous, nous voulons avoir des actions. Et faut-il d'abord se demander si ces gens-là sont ici, si l'argent qu'on veut récupérer se trouve dans quel compte, et ça se trouve en RDC. Si c'est déjà dans des comptes étrangers, vous savez, ça sera déjà un manque à gagner pour les pays, même si on va bloquer leurs comptes. Et nous devons nous rassurer qu'ils sont au pays et qu'ils vont rester ici. Parce qu'ils peuvent s'arranger pour quitter ce pays pour des raisons de maladie et tout ça, sans qu'ils soient malades.
André Romain Kambala Bilolo, je rappelle que vous intervenez à partir de Chicapa. Il y a aussi certains analystes qui estiment que non seulement les entreprises congolaises et les régies financières, il faut aussi auditer la Banque centrale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Effectivement, je suis d'accord avec leur avis, dans la mesure où ce qui se passe partout ailleurs, dans les entreprises, se passe aussi au niveau de la Banque nationale, je crois. Pas pour longtemps, vous avez suivi dernièrement qu'il y avait des structures qui travaillent bien avec la Banque pour lesquelles on a retiré les documents qui leur donnaient droit de travailler de cette façon-là. Ça veut dire qu'il y a toujours des problèmes. Les problèmes ont commencé à surgir. On sait qu'au niveau de la banque, il y a des petits problèmes avec le filiale qui travaille avec la Banque nationale congolaise. C'est vrai. Ce que je peux dire est que la banque aussi doit être auditée. Et le rapport même fourni est un rapport incomplet dans la mesure où on nous présente 3 régies et 6 sociétés. Mais c'est pas ça ce que fait le Congo. Le Congo est si grand et le nombre de sociétés et de régies, c'est tellement important à tel point que on doit faire tout le travail et nous donner le résultat. Ce qui me cœur personnellement, c'est quoi?
Rapidement, s'il vous plaît.
Si c'est pour une année, le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est pour une année. Moi, je crois
et
que...
Et seulement pour quelques entreprises de l'État. Un échantillon des 6 entreprises des 3 régies financières. Il y en a aussi d'autres qui n'ont pas encore été auditées.
Oui, j'en arrive. Bon, c'est ce que j'ai dit, que pourquoi le ministre Mayobo devait se précipiter de nous donner seulement 3 régies et 6 entreprises pour le travail d'une année? Non. Là, il y a des choses qui n'ont pas été révélées, soyons un peu clairs. Peut-être que c'est une précipitation par rapport à ce qui se projette à l'horizon. On croit qu'il faut d'abord publier ce qu'on a publié parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver.
Mais il faut toujours commencer quelque part. Hein.
Il faut quand même pas les
oui, c'est vrai qu'il faut commencer quelque part. Mais je me dis que prendre une année pour représenter 3 régies et quelques 6 sociétés, c'est très insuffisant.
Merci beaucoup.
Et aussi, ok, merci.
Ok. Terminez votre phrase aussi.
Oui, bon. En fait, continuons d'abord, j'ajouterai quelques choses après.
Merci beaucoup. Vos propos nous permettent de passer directement à notre second thème. Le gouverneur André Kimbuta, qui a été cité comme commanditaire de l'assassinat du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Daniel Botetsi, devrait en principe comparaître le lundi prochain devant le tribunal militaire. À propos de ce procès, l'audience de mercredi dernier était consacrée à l'instruction des préventions de meurtre, à savoir qui a tiré sur Daniel Botetsi et pourquoi. À cet effet, le prévenu Patrick Mouewa a subi un interrogatoire du ministère public, de la partie civile et de la défense. Le prévenu a avoué ne pas savoir exactement qui a tiré sur Daniel Botetsi, mais il pense que les coups de feu pouvaient provenir de l'un des assaillants qui était muni d'une arme à feu. Il cite entre autres Kadi, Fidel et 2 autres complices. Outre le gouverneur de la ville de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale de la capitale, Roger Nsingi, pourrait lui aussi comparaître à l'audience publique de lundi prochain. Onésime Mukandila pour les détails.
Compte tenu des éléments recueillis lundi après sa descente sur les lieux du crime, le tribunal des garnisons de Ngaliema, siégeant en matière répressive au camp Kokolo, a jugé d'examiner infraction par infraction retenue à charge des prévenus. Il s'agit de la prévention du meurtre, de l'association des malfaiteurs et dissipation des munitions. L'heure est à présent à l'instruction de la prévention de meurtre. Après avoir reçu le rapport des relevés d'appels entrant et sortant des cimes des prévenus du ministère public et l'interrogatoire soumis au prévenu Patrick Mouk, le tribunal a instruit le greffier sur demande du ministère public, de la partie civile et de la défense, d'appeler à l'audience publique prochaine le gouverneur de la ville de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre provincial de la sécurité, l'opérateur gérant la communication par Motorola de la police de Kinshasa, le superviseur qui affecte les policiers de garde et d'autres prisonniers condamnés cités par le ministère public. Toutes ces personnes pourront donc comparaître à l'audience publique prévue le lundi prochain au camp Kokolo. Il leur sera posé uniquement des questions relatives à la prévention de meurtres en instruction.
Thierry Lébica, je me tourne directement vers vous parce que vous êtes rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal Kin, émettant partie de Kinshasa, une chaîne de télévision proche du MLC, parti politique auquel appartenait Daniel Botetsi. Est-ce que vous êtes satisfait que finalement le gouverneur puisse comparaître, puisque c'était ça aussi la demande de la défense qui représente la famille de Daniel Botetsi et l'opposition aussi?
satisfait dans une certaine mesure parce que si nous voulons construire un beau, un grand Congo, il faut que tous nous soyons égaux devant la loi. Kimbuta, comme citoyen congolais, tout comme moi, tout comme toute autre personne, quand vous êtes dans une affaire de ce genre, la moindre des choses, c'est qu'on vous entende. Et Dieu merci, lui-même, selon ce qu'il a dit, hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait au fond de son cœur, il a dit qu'il voulait être entendu, donc dans cette mesure-là, je suis satisfait, mais j'attends voir un peu plus clair, parce que jusque-là, selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore dites autour de ce procès. Et le fameux Patrick Muyiwa, qu'on considère comme étant une pièce, mais comme moi je dirais, le vrai complicateur de ce procès, c'est lui.
Pourquoi ?
Une chose, parce que il n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Son manque de cohérence me pousse même à ne plus croire en lui, même par le fait de citer André Kimbuta, pour qui je n'ai pas beaucoup d'amour entre guillemets. Il n'est pas, c'est pas un homme qui a été élu dans de bonnes conditions, tout le monde le sait.
Ouais, vous avez dit la fois passée que vous ne croyez pas trop que ce soit un assassinat politique, vous pensez que Daniel Bottecchi s'est retrouvé dans un mauvais endroit au mauvais moment. Vous persistez ici.
Le fond de ma pensée me le fait croire, et puis malgré tout ce que je pense comme bien du Kimbuta, avec tout ce que tout le comportement de Patrick Muyiwa, je ne crois en rien de tout ce qu'il dit. Ça me pousse même à ne plus croire que Kimbuta y est pour quelque chose. Mais dans une affaire judiciaire, il ne faut pas.
On peut rien avancer. Vous êtes un bon défenseur de Kimbuta. Hein.
Non, je ne le défends rien du tout. Hein. Le droit et le bon droit pourra me dire dans quelles circonstances Daniel Bottecchi a été tué et qui a été le commanditaire. Si c'est Kimbuta, je n'applaudirai pas, je ne pleurerai pas. La justice sera faite. Donc, mais sinon, c'est une inquiétude dans cette affaire. C'est le comportement de Patrick Muyiwa. Le fait qu'il soit versatile me pousse même à croire qu'il y a de même derrière lui.
Il ne voudrait pas mourir seul, comme on le dit.
Non, ben quand à ce niveau-là, un récidiviste de son genre, c'est d'être irresponsable. Il sait ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il n'a qu'à subir la loi. Citer des gens pour citer, ça ne l'avance en rien. Et puis un procès, le fait de citer Kimbuta, si ce n'est pas lui, le procès va nous le montrer. Je vais terminer en disant que ces procès, Daniel Bottecchi, me fait beaucoup penser au procès Coutinho, que nous sommes en train de suivre, parce que Mabosso, qui a cité le nom de Pasteur Coutinho, est mort dans des circonstances que tout le monde connaît aujourd'hui, et aujourd'hui on sent que le procès n'avance presque pas.
Mais Muyiwa est encore vivant. Hein.
J'ai bien
je
peur.
Je ne souhaite pas la mort.
Non. Déjà que Kadi, on cite, on n'a pas encore vu sa photo, on ne connaît pas sa famille. J'ai bien peur qu'un jour on puisse même plus parler de ces fameux Patrick qui changent tous les jours, ou même qui compliquent le procès complètement.
Merci beaucoup. Nous nous rendons directement à Chikapa, d'où intervient André Romain Tambalabidolo. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gouverneur de la ville de Kinshasa va comparaître lundi prochain. Est-ce que c'est une avancée quand même par rapport à ce qu'on connaît dans ce pays? D'aucuns pensaient qu'en tant que gouverneur, en raison de son poids politique, de son humilité, il ne pouvait pas comparaître devant les tribunaux militaires. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, nul n'est au-dessus de la loi. Ceux qui pensent que la chose peut aller de cette façon-là se trompent. Tout le monde peut passer devant la justice du moment où on est cité dans un tel ou tel autre, dans une telle ou telle autre affaire. C'est vrai qu'on a cité André Kimbuta. C'est à la justice de nous prouver si c'est vrai ce que dit M. Patrick Muyiwa, si c'est Kimbuta qui a commandité l'assassinat de Daniel Bottecchi. Mais de l'analyse des uns et des autres, les gens pensent que peut-être Kimbuta pourrait y être pour quelque chose, dans la mesure où gouverneur de province, celui-ci vice-président de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale qui a un œil à jeter sur la gestion de la province, si on fait juste cette corrélation-là, il y a lieu de dire peut-être qu'il y avait un peu de bruit, un peu de zone d'ombre, et les choses peuvent arriver. Mais c'est pas à nous de le dire si ok, écoutez, Kimbuta est impliqué ou ne pas impliqué. D'autant plus qu'on a appelé Kimbuta, on a appelé Godard notamment, on a appelé Roger Fille et toute la chaîne. Je crois que les gens seront fixés sur les responsabilités de l'un et de l'autre dans cet assassinat de Daniel Bottecchi.
Et pourquoi d'après vous le tribunal a-t-il appelé à comparaître aussi Roger Nsingi, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et Godard Motemona, si je me trompe, le ministre provincial de l'Intérieur, parce que eux, ils n'ont pas été cités.
Bon, effectivement, on doit les appeler parce qu'au vu d'abord de leur responsabilité,
L'un est président de l'Assemblée provinciale. Ça veut dire c'est le collaborateur le plus proche de Daniel Botetti. En ce genre, il a des choses à révéler. Peut-être que la gestion au niveau de les relations, s'il vous plaît, au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau du gouvernorat, n'était pas tellement de très bonnes relations, où il y avait des engrenages, comme je l'ai dit, peut-être c'est un élément de plus qui peut permettre à la justice de se pister. En plus, le cas de Kérogène...
Rapidement.
Oui. L'autre qui est chargé de l'intérieur et de la sécurité, au vu de sa responsabilité, automatiquement, on doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être c'est pour qu'il puisse aider la justice à se retrouver sur la bonne piste pour voir si réellement le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et les commanditaires ou non.
Merci beaucoup André-Romain Kambala-Biloulou. Je m'adresse à vous maintenant, Claudine Bombo. Vous êtes journaliste au sein du quotidien L'Observateur paraissant à Kinshasa. Nos auditeurs, le journal L'Observateur est proche de la majorité au pouvoir. Et qu'est-ce que vous en pensez? Comment on analyse la comparution du gouverneur de la ville de Kinshasa que votre journal soutient, si je ne m'abuse? Comment est-ce qu'on interprète là-bas cette comparution dans votre journal?
Oui, la comparution, on peut dire qu'il faut quand même féliciter le gouvernement parce qu'il a quand même laissé la main libre à la justice pour faire son travail. Donc, qui ne pouvait penser que Kimbuta allait se présenter devant la justice? On disait comme il est de l'alliance de la majorité présidentielle, il ne peut pas aller là-bas, ceci, cela. Mais ce que nous condamnons dans tout ça, c'est le folklore politique qui est autour de ces procès. Qu'on laisse la justice faire son travail. Ça ne sert à rien de créer des associations, de créer des mouvements, faire des déclarations à tout moment à la télé. Quand tu circules sur la ville, tu trouves des banderoles partout, gouverneur innocent, tout ça. Cette agitation-là, toutes ces agitations-là font qu'on puisse pas peut-être bien trancher les procès.
Mais on a entendu aussi certains Congolais dire que, au fait, c'est un complot qui vient de l'ANP. Il faut à tout prix noyer Kimbuta parce qu'il ne plaît pas à certains puissants, à certains barons du régime actuel de la majorité présidentielle.
Et tu sais qu'en politique, il n'y a pas des cadeaux.
Et qu'est-ce qu'il aurait fait à tous ces gens-là?
Toutes les hypothèses sont possibles. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ces fauteuils-là et ils sont prêts à tout faire pour l'éjecter. Il n'y a pas de cadeau en politique.
Oui, Thierry, peut-être un dernier mot avant de passer au thème suivant.
Le petit mot, c'est seulement préciser à André, à tous ceux qui nous suivent, que le tribunal a le droit d'appeler tout le monde qu'il veut, même moi. Si ce que j'affirme ici intéresse le tribunal, on peut m'appeler pour me demander, monsieur Thierry, mais vous avez dit à la radio que la nuit là, le monsieur qui est décidé de passer par ici, vous l'avez vu. Donc les cas de Rosine Thierry Godard Motemon, ils ne sont pas encore appelés à comparaître. Ils sont appelés plutôt, on dirait témoigner, hein, tout simplement. Ce n'est pas le même, c'est pas la même chose que qu'André Kimbuta, qui a été nommément cité par le prévenu Mouewa. Donc les tribunaux ont appelé Rosine Thierry Godard Motemona, le monsieur de la radio de l'hôtel de ville, de la police et qui c'est ça, mais aussi le responsable de la CINEL au niveau de Haute-Anse, qui viendra aussi pour témoigner, aider un peu les tribunaux à voir clair.
Mais avant de passer à notre troisième thème, je reviens à vous, Claudine Bombo. On a aussi entendu certaines voix du MLC s'insurger contre le fait que le gouverneur ait utilisé une institution officielle, une institution publique, c'est-à-dire son gouvernement à travers le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa pour prendre respect et cause pour lui, alors que ce n'est pas le gouvernement provincial de Kinshasa qui avait été cité. Pourquoi la porte-parole du gouvernement provincial avait fait un communiqué à la télévision pour prendre respect et cause, pour défendre André Kimbuta?
Bon, j'aime dire, en tout cas, on devrait quand même attendre une déclaration de la part du gouvernement provincial. Ça, lui, c'est la tête. Et si jamais Kimbuta tombe aujourd'hui, selon la Constitution, c'est tout le gouvernement qui tombe.
Donc, question de solidarité.
C'est question de solidarité gouvernementale, si le mot existe.
Mais il pouvait le faire à travers son porte-parole personnel et non pas à travers le porte-parole du gouvernement provincial qui n'a pas été cité, le gouvernement provincial de Kinshasa.
Il sait dans ses procès. Les procès sont presque politisés et il faut utiliser toutes les cartouches pour défendre pour défendre le camp ou défendre le monsieur ou la dame qu'on veut défendre. Et pour Patrick, moi j'ai dit, il doit passer un examen psychologique, franchement. avant de continuer le procès. Mais les incohérences, c'est depuis les premiers jours, c'est depuis les premiers jours jusqu'à ces jours. Et quand la justice le considère comme pièce maîtresse, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, moi je regrette, je pense qu'il doit passer un examen psychologique avant la suite du procès.
Oui, c'est une procédure aussi légale, hein, autorisée dans les procès.
Oui.
Merci beaucoup, Claudine Mbombo. Donc, nous passons à notre troisième et dernier thème. Cette semaine était aussi caractérisée par la saisie au Portugal des avoirs et biens du sénateur Jean-Pierre Bemba, ceci à la demande de la Cour pénale internationale. Il s'agit d'une villa dont la valeur est estimée à plus de 2 millions de dollars américains, d'un Boeing, d'un yacht, des deux voitures de haut de gamme et divers documents. Écoutons à cet effet la réaction de Jean-Lucien Boussa, député national MLC, qui estime que la CPI, en agissant ainsi, met la charrue devant le bœuf. Il réagissait ainsi cette semaine au cours de l'émission Dialogue entre Congolais du mardi 22 juillet dernier, présentée par notre confrère Jean-Claude Toumba Kamanga.
Je constate, par rapport à la démarche de la Cour pénale internationale, que l'on met la charrue devant le bœuf. Parce que lorsque quelqu'un est accusé de n'importe quel fait, il est présumé innocent. Et nous considérons qu'il est important que la justice internationale soit véritablement juste et qu'elle considère que c'est à partir du moment que la personne est condamnée qu'on peut se permettre de poser tous les autres actes en rapport avec cela. Dans les cas d'essai, nous avons toujours considéré que la CPI est totalement discréditée. D'ailleurs, avec ce qui se passe au Soudan, on se rend de plus en plus compte que cette institution n'est qu'un instrument au service des puissances étrangères, des puissances d'argent. Et donc, pour notre part, la CPI reste une institution hautement politique et sa justice n'est pas totalement juste.
Merci beaucoup Jean-Lucien Boussin. André Romain Kambala Bilolo, la charrue devant les bœufs, c'est ce que dit Jean-Lucien Boussin. Est-ce que vous pensez que la CPI met la charrue devant les bœufs en demandant à ce que les biens de Jean-Pierre Bemba soient saisis avant même qu'il ne soit condamné?
La charrue devant les bœufs, je ne le crois pas clairement, parce que dans la procédure de la Cour pénale internationale, quelque part, il est prévu aussi que pour l'indemnisation de victimes, on peut saisir le bien de la personne arrêtée pour voir dans quelle mesure si la sentence qui sera prononcée ne sera pas en sa faveur à ce moment-là, si les victimes réclament réparation et avec ce bien, et aussi avec la contribution de la Cour pénale internationale, on peut voir dans quelle mesure on peut indemniser les victimes. Jusque-là, c'est, je dirais, une saisie conservatoire. On n'a pas encore décidé de ce qu'on va en faire. C'est du moins, c'est vrai qu'on a saisi, mais on n'a pas dit est-ce que c'est la Cour qui va prendre, parce que jusqu'à présent, on n'a pas dit qu'on a déjà condamné Jean-Pierre Bemba. Du moment où il n'est pas encore condamné, ces biens ne peuvent pas être utilisés d'une façon ou d'une autre. Donc, aussi longtemps que c'est une saisie conservatoire, ce que nous pouvons dire est que on peut garder le calme en attendant que le procès se poursuive et qu'on voie à quel résultat on va arriver et qu'est-ce qu'on va faire de ce lien. Mais est-ce que la procédure de la Cour pénale internationale c'est vrai, nous ne sommes pas les hommes de droit comme tels pour savoir si c'est à quel moment est-ce qu'on pouvait saisir le bien ou on pouvait saisir ou on ne pouvait pas. Donnant le temps au temps, donnant aussi le temps à la Cour pénale internationale d'inscrire le dossier.
Merci.
Et de dire en dernier ressort qu'est-ce qu'on peut faire.
Merci beaucoup, André-Romain Kambala. Thierry Lebika, vous êtes rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal Kin, émettant de Kinshasa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez de cette saisie de bien du sénateur Jean-Pierre Bemba sur demande de la Cour pénale internationale? Il n'est quand même pas pauvre, hein, quand même, yacht, avion Boeing, une villa équivalent à peu près 2,5 millions d'euros quand même, c'est pas un pauvre, Jean-Pierre Bemba.
Vous le dites, hein, les Congolais moyens n'ont pas tout ça, je pense comme vous qu'il est riche, mais bon, je peux aussi dire que ce qu'on a cité là, c'est peut-être rien par rapport à tout ce qu'il peut avoir. C'est un monsieur qui travaille depuis des années, depuis 80 par là, il travaille, et quand on a travaillé dans l'aviation, avoir des avions, des entreprises de télécommunications, au moment où, au Congo démocratique,
il était vice-président de la République pendant la transition.
Vice-président de la transition par rapport aux années 80, 90, par là, quand la minute...
Chargé de l'écofin, comme le dit si bien Claudine Bombo.
Très bien, quand la minute...
Pour vous taquiner un peu. Hein.
Voilà, quand la minute coûtait 5 dollars américains avec Comcel et Telecel à l'époque, imaginez-vous, si on appelait à 5 dollars la minute à l'époque, ce qui était régulier, hein, vous imaginez en une année qu'est-ce qu'on peut faire comme million de dollars. Hein, donc 1,5 million par là, Je crois que c'est absolument rien. Jean-Pierre, c'est un monsieur qui travaille beaucoup. Mais dans ce que...
Ça ne vous engage que vous-même. Allez.
Je vous en prie. Dans ce que fait la Cour pénale internationale, je donne complètement raison à André quand il pense que ce n'est qu'une saisie conservatoire et que plus tard, si M. Jean-Pierre Bemba est acquitté, il pourra récupérer tous ses biens. Mais tout de même, nous sentons qu'il y a quand même une petite précipitation par rapport au dossier Jean-Pierre Bemba. Hein, on ne cessera jamais de le dire que les mandats d'arrêt a été lancé 3 jours avant qu'on l'arrête. On a parlé de services secrets belges. Pourquoi tout ça? Et pourtant, par rapport à d'autres prévenus au niveau de la Cour pénale, on ne s'acharne pas autant. Il y a quand même un acharnement autour de M. Jean-Pierre Bemba que nous devons toujours prendre en compte également. Je ne sais pas si vous l'avez appris, une semaine par là, sa femme a été brutalisée au niveau de Bruxelles pour une voiture.
C'est pas l'une des voitures qui devait être saisie.
Peut-être, c'est l'une de vos choses, je crois, mais il y a quand même de la manière, quand on trouve une dame au volant, même quand la police fait son travail, on voit un monsieur, si on pense que ce monsieur peut paraître comme un voleur, là on peut le bousculer, mais dès là, à mettre mal à l'aise une pauvre dame, je crois qu'il y a tout de même un peu d'acharnement sur la personne du prévenu Jean-Pierre Bemba, qui n'est jusque là que simple prévenu.
Merci beaucoup Thierry, je m'étonne vers vous, Claudine Mbombo. Thierry vient de dire qu'il y a quand même une certaine précipitation dans le dossier Jean-Pierre Bemba, un certain acharnement à l'endroit de sa famille, sa femme notamment. Comment vous réagissez par rapport à cela?
Bon, si on est arrivé au niveau de sa femme, là, je regrette infiniment, mais je me dis acharnement par rapport à quoi et pourquoi?
Par rapport au Omar Béchir, par exemple.
C'est-à-dire?
Non, avec Omar Béchir, un seul pays est en train de négocier. Je ne sais pas si
mais
vous
c'est le pas seul. Le Soudan n'a jamais signé le traité de Rome. Le Soudan n'a jamais signé.
C'est une raison valable que le Soudan n'a pas encore signé. Mais telles que les choses se sont passées pour M. Jean-Pierre Bemba, il faut le reconnaître, c'était assez vite. Parce que vous le savez bien, trois jours, le mandat a été lancé.
Trop vite par rapport à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'on s'acharne sur Jean-Pierre Bemba.
Vous pensez que la CPI ne s'acharne
pas? Non, elle ne s'acharne pas. Elle fait normalement son travail. Elle a saisi des biens, la service conservatoire des biens était prévisible.
Mais que la CPI ne peut pas tenir compte aussi de. Ne peut-elle pas tenir compte de sa famille, de la famille de Jean-Pierre Bemba? Comment est-ce qu'elle va vivre? Est-ce que les enfants, la famille de Jean-Pierre Bemba est aussi impliquée dans ce qu'on reproche à Jean-Pierre Bemba pour qu'on saisisse tous ces biens?
Thierry l'a dit, Jean-Pierre est très riche et je pense qu'on ne va pas saisir tous ses biens et je ne pense pas que son épouse passe 1000 euros.
Les enfants
ne vont pas étudier l'année prochaine.
Après Faro, je pense qu'ils vont arriver même jusqu'au niveau de Bruxelles. Je peux avoir 1 milliard en liquide dans une banque, mais non, je ne sais pas comment signer les chèques.
Les enfants pourront
dormir dehors. Mais également, l'histoire du passeport du sénateur Jean-Pierre Bemba sur lequel on aurait trouvé un visa pour les États-Unis. C'est un argument qui a été pris en compte par la CPI. Mais or, c'est un argument. Non, je ne sais pas, mais c'est un argument qui a été raté. La CPI l'a reconnu que M. Jean-Pierre avait avec ses enfants un passeport pour les États-Unis, comme si c'était la première fois pour M. Jean-Pierre Bemba d'entrer sur le sol américain.
Une seule chose.
À tout le monde qui nous suit, il ne faudrait jamais croire que M. Jean-Pierre Bemba était inconscient qu'un jour il serait face à la Cour pénale internationale. Il faut se mettre dans sa tête que Jean-Pierre s'est toujours préparé à ce qu'il fait aujourd'hui.
Il n'est pas non plus spécial que la Cour traite autrement.
André, vous allez réagir aussi par rapport à ça. On va terminer par vous. En une minute, s'il vous plaît.
Oui, par rapport à ce que les amis disent, c'est vrai. C'est acharné sur la femme, oui, c'est vrai. Bon, ça sont des choses qu'il faut condamner. Mais ce que je veux dire, au dernier élément évoqué par l'EDICA pour un visa pour les États-Unis, oui. Là aussi, il faut comprendre que la Cour pénale internationale devait travailler parce que les États-Unis ne sont pas signataires de l'accord de Rome. Si, dans leur mandat lancé, et que M. Jean-Pierre Bemba parvenait peut-être à faire les États-Unis, qu'il savait combien d'États avait-il là-bas et quand est-ce qu'il allait y revenir. On ne sait jamais, c'est la justice. On ne va pas dire qu'elle s'est acharnée, qu'elle s'est précipitée pour l'arrêter.
on l'a arrêté parce que vous l'avez déjà souligné qu'il était conscient qu'un jour ou l'autre on l'arrêterait.
Merci.
C'était le temps, le moment de le faire qu'on ne savait pas.
Merci beaucoup, c'est par vos propos qu'on termine cette émission. Merci donc à vous trois d'avoir accepté notre invitation et surtout que c'était la dernière fois que vous participiez à cette tribune de la presse après 4 émissions de suite. Je vous dis encore grand merci, Jean-Claude Toumba Kamanga a réalisé cette tribune de la presse et merci à toute l'équipe de Dialogue en Congolais qui a participé à sa préparation, Guy Roger Nyampala, Titi Mputu, Guy Maté, Denis Viboko, William Lungamba était à la mise en onde. Bon week-end à tous et au revoir.
Okapi, okapi.